L'empereur est très mécontent. Il veut faire de la Judée une province plus obéissante et plus disciplinée. Le nouveau procurateur et moi devons rétablir l'ordre et j'ai l'intention d'obéir à l'empereur.
Oui, mais comment, Messala ?
On peut s'attaquer à un homme. On peut
l'arrêter. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Plus nous avançons d'année en année dans la série de Concordance des temps, plus me frappent les échos qui surgissent constamment entre l'Antiquité romaine et nos jours. Le Moyen-Âge qui nous en sépare semble paradoxalement à bien des égards plus lointain. Je vais aujourd'hui mettre à l'épreuve cette impression à propos du maintien de l'ordre. Autrement dit, de la manière dont les États peuvent affronter les violences individuelles et surtout collectives, les émotions populaires, comme on disait autrefois, tout ce qui met en cause l'équilibre, qu'il soit légitime ou non, des sociétés régulées par les pouvoirs politiques. Hélène Ménard, qui enseigne l'histoire romaine à la Sorbonne, à l'université de Paris 4, publie un livre neuf sur ce thème, pour la période de l'Empire, qui va du 2e au 4e siècle de notre ère, et elle est mon invitée ce matin. Hélène Ménard révoque en doute la sombre image des prétoriens qui réprimeraient dans le sang, brutalement, impitoyablement, toute velléité d'opposition à leur maître, les empereurs. Cette image, le cinéma et la littérature populaire l'ont beaucoup portée. Or, la réalité est en fait bien plus complexe, si l'on regarde les choses de près. Certes, les violences de la foule lors des Jeux du cirque ont bien existé, évoquant irrésistiblement le drame récent du stade du Hesel. Certes, les chroniqueurs relatent quantité d'émeutes, d'incendies provoqués, de lynchages. Mais au quotidien de l'Empire, comme de notre temps, la dialectique de l'ordre et du désordre s'est imposée de façon bien moins dramatique, selon toutes sortes de mécanismes administratifs et policiers qui appellent des rapprochements surprenants avec ceux que nous observons dans nos sociétés contemporaines.
Alors, ils sont fous, ces Romains.
D'ailleurs, nous sommes arrivés.
Quel est ce bâtiment, les curieux ?
Ce bâtiment, mon ami, c'est la préfecture. Allez, entrez !
Oh, dis donc ! Oh, ils sont bien situés, hein ? Juste au bord de la Séquena. Puis c'est grand, oh là !
Ave, centurion ! Ave, décurion !
Et alors, en somme, si je comprends bien, un centurion, c'est plus qu'un décurion.
10 fois plus.
Ah, bah voilà.
Quels sont ces hommes, décurions ? Voilà, centurion. Nous étions, moi et mes hommes, revêtus de nos uniformes et en service commandé, patrouillant sur le boulevard Saint-Barbare.
Oui, 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 au fait, au fait.
Alors, nous étions en patrouille, donc, lorsque nous entendîmes, provenant du cabaret du Gaulois à vos rangs fixes, un tapage que je peux qualifier, sans exagérer, de nocturne.
Mais il est 4 heures de l'après-midi.
Ah, centurion, sauf votre respect, si vous l'aviez entendu comme moi, le tapage, vous seriez de mon avis.
Bon, passons. Et alors ?
Alors, ce susdit tapage étant de nature et de connivence à troubler le repos et la tranquillité publique, comme le dit clairement l'arrêté préfectoral du...
Par Jupiter ! Vous allez vous dépêcher un peu, oui ?
Oui, centurion, excusez-moi. Alors voilà, on est descendu dans la boîte du susnommé à vos rangs fixes afin de verbaliser. Et on a trouvé ces deux Gaulois ici présents qui nous ont déclaré, parlant à ma personne, qu'ils avaient tout caché dans l'établissement, en quoi de quoi un coup d'œil perspicace et circulaire m'a convaincu de la véracité de leur affirmation.
Et alors,
usant de l'autorité qui m'a été conférée, je les ai obtempérés sans résistance jusqu'ici.
C'est tout ?
C'est tout, centurion.
Vous dites qu'ils ont tout cassé dans le cabaret, dans le cabaret d'un grand fils ?
Oh, oui, il n'y avait plus rien de bout, à part eux, évidemment. C'est pourquoi, revêtu de...
Ça va, parfait ! C'est une bonne chose de faite. Vous pouvez rompre.
Rompre quoi, centurion ?
Rompez par Jupiter !
Oh bien, centurion ! Ave !
C'est ça, ave ! Approchez un peu, tous les deux. Alors, comme ça, on casse tout dans les cabarets ? Et pourquoi ça, je vous prie ?
Ah voilà, on voulait acheter une serviette.
Je ne veux pas le savoir !
Ils veulent rien savoir, moi. Ils demandent et puis après... Ils...
Silence ! D'où venez-vous ?
Nous venons.
Silence !
Mais comment ça m'énerve, Félix, hein ?
Silence ! Écoutez-moi, Gaulois ! destruction de matériel, voie de fait, tapage occasionnant des troubles sur la voie publique. Légionnaire Bélagénus.
Oui, mon centurion.
Qu'on mette ces deux Gaulois en prison.
Bien, mon centurion.
Ah, ça leur fera du bien d'être un peu au calme. Nous les jugerons dans quelque temps. Si nous y pensons.
Vous allez m'écouter, oui.
Bonjour, Hélène Ménard.
Bonjour.
Alors, je ne peux guère vous en faire mystère. Il s'agit d'un extrait d'Astérix, d'après Uderzo et Goscinny. C'est une émission de 1966 en réalisation de Claude Dupont pour France Inter. Je suis frappé de la bonne volonté, même de l'ouverture souvent des historiens de l'Antiquité à l'égard d'Astérix. Et aussi d'ailleurs à l'égard d'Alix l'Intrépide de Jacques Martin. Il y a eu il y a quelques années une exposition très remarquée à Sorbonne à propos d'Alix. Là, il s'agit d'Astérix. Et vous aviez un sourire, vous aviez l'air plus amusé que choqué.
Oui, effectivement, Astérix n'est pas une source historique à proprement parler.
Oui, ça certainement.
Mais on peut effectivement l'utiliser pour faire comprendre un certain nombre de faits. Et ici, c'est assez intéressant de voir que Astérix et Obélix, donc ces deux Gaulois, manifestent une certaine propension au désordre en se livrant à une rixe, hein, qui est le premier trouble, le premier degré de trouble à l'ordre public
dans un cabaret,
c'est-à-dire dans un lieu de sociabilité où les gens ont l'habitude de se réunir pour boire, mais également pour manger, éventuellement pour jouer, même si cela évidemment est assez contrôlé.
Et d'autre part, tout ce jeu naturellement des stéréotypes, qui est un des charmes, qui est même peut-être le principe d'Astérix en général. C'est qu'il y a une forme de va-et-vient entre le passé et le présent.
Effectivement. Bon, nous avons ici le stéréotype du Gaulois, braillard, batailleur, que l'on retrouve dans les sources antiques.
Oui, donc c'est pas anachronique, ça.
C'est légèrement anachronique, mais néanmoins, vous avez là un écho par exemple, Damien Marcellin, au IVe siècle, qui fait allusion à une Gauloise aux bras assez imposants.
Ah bon, Damien Marcellin et Goscinny, même combat, alors.
Pas exactement, mais... Effectivement, on peut retrouver un écho Damien Marcellin et de sa Gauloise qui bataille ferme en défendant ses compatriotes lors d'une rixe.
Très bien. Nous allons donc aborder les choses de façon plus générale. Nous reviendrons, j'imagine, au cabaret tout à l'heure, si je puis dire, Hélène Ménard. Je vais vous faire encore un court-circuit un peu brutal, parce que je voudrais passer de Goscinny à Georges Dumézil. Georges Dumézil qui écrivait à propos de l'époque romaine, société de l'ordre, civilisation du solide. Est-ce que vous pouvez expliciter cette citation que vous avez choisi d'inscrire d'ailleurs au début de votre livre?
Donc Georges Dumézil entend par là que l'ordre est premier dans la société romaine et que cet ordre s'appuie sur des fondements tout à fait concrets, tout à fait solides, qui sont essentiellement repris sous le terme de disciplina.
Okay, d'où vient l'origine du mot ordre? Ordiri.
Donc ce terme signifie en fait tisser, hein, c'est-à-dire établir des liens finalement.
Ourdir une trame.
Ourdir, voilà, on le retrouve dans effectivement l'expression ourdir une trame, hein, établir des liens, on dirait peut-être aujourd'hui établir des connexions, l'ordre et cette espèce de tissu social, finalement, s'appuie sur un tissu social qu'il convient d'entretenir.
De ne pas déchirer.
De ne pas déchirer, bien sûr, hein, tout d'abord, mais également d'entretenir par l'intégration de normes, de comportements, donc qui se retrouvent sous le terme de discipline.
Discipline, c'est lié à l'idée d'apprentissage, de
voilà,
disco.
Voilà, cela vient effectivement du verbe « apprendre ». On pourrait rattacher cela à l'idée de disciple, hein, bien sûr.
Et l'émotion populaire, c'est finalement ce qui rompt l'ordre par un mouvement non maîtrisé.
Le désordre et la rupture de la discipline, on parle de licence, hein, c'est-à-dire effectivement de mouvements un petit peu désordonnés. D'ailleurs, les Romains utilisent des termes qui expriment, hein, lorsqu'ils veulent parler du désordre, ils utilisent des termes qui expriment le mouvement, hein, mais un mouvement non contrôlé, également une idée de bruit. Beaucoup plus que des images, en fait, c'est essentiellement l'idée de tumulte, de tourbe également, de mélange.
De tourbe, oui, c'est ça.
Oui,
ça.
De tourbe, de foule, un petit peu mélangée, donc désordonnée.
Qui conduit à une définition, au fond, de l'art politique comme la capacité à prévenir et à contenir le désordre, à assurer la concorde et l'harmonie. Vous citez oui. Plutarque. La politique consiste à faire toujours régner entre nos concitoyens la concorde et une mutuelle amitié. Faire disparaître les querelles, les discordes et toute espèce d'inimitié. Fin de citation.
La concorde est effectivement la finalité, finalement, de l'art politique, puisque la politique est érigée au niveau d'un art. Et donc, pour tout notable, pour tout aristocrate romain, il convient de maintenir le lien social, et cela s'exprime par cette idée de concorde. Le désordre étant évidemment la discorde, et bien sûr de sédition, c'est-à-dire de division, du corps civique, plus particulièrement, de séparation de la cité et des citoyens en plusieurs factions qui vont s'affronter. Et donc, tout l'objectif de l'homme politique est de maintenir la cohésion de la cité, des différents citoyens qu'il a sous son autorité.
Tout ça est un peu abstrait, il faut que maintenant que nous rentrions dans le concret. J'ai envie d'y rentrer par l'intermédiaire d'une citation que vous faites de Pline le Jeune, l'histoire du dauphin.
Pline le Jeune, le neveu de Pline l'Ancien, qui peut être plus connu de nos auditeurs, puisque Pline l'Ancien a vécu et est mort à la suite de l'éruption du Vésuve en 79 de notre ère. Donc Pline le Jeune est son neveu. Il rapporte dans une de ses lettres que un dauphin a créé un trouble à l'ordre en venant fréquemment parmi des baigneurs, donc cela se situe sur le littoral africain. Donc il vient régulièrement, cela suscite évidemment l'intérêt des baigneurs, comme cela le susciterait de nos jours également, bien sûr. Et ce dauphin finit par créer des attroupements, en tout cas des rassemblements qui sont ressentis par les autorités locales comme une perturbation. Et donc l'on décide, donc on vient voir ce dauphin d'assez loin. On se déplace pour voir ce dauphin, et donc les autorités locales finissent par décider qu'il faut éliminer ce dauphin parce que cela cause un trouble à l'ordre public.
Et donc on le fait périr discrètement.
Voilà.
Discrètement pour faire peine aux enfants.
Oui.
Alors donc ça nous conduit cette anecdote très directement à la rixe. La rixe, les brusques affrontements dans la rue entre les citoyens, c'est un des éléments d'inquiétude pour les autorités.
Oui, même si la rixe reste un délit, c'est-à-dire un trouble d'ordre privé, ce qui inquiète les autorités, c'est que les rixes peuvent dégénérer en des batailles rangées qui là causeraient des troubles beaucoup plus graves à l'ordre. Les rixes semblent relativement fréquentes. C'est un comportement, le fait d'être engagé dans une rixe correspond à un comportement de type populaire, qui manifeste qu'on ne se maîtrise pas. Et donc, on a des exemples, soit littéraires, soit juridiques, de rixes qui se déroulent dans les rues de Rome. Bon, je peux prendre un exemple. Nous avons un passage d'une source juridique tardive, qu'on appelle le Digeste, mais qui reprend des écrits de juristes. Donc ici, il s'agit d'un extrait du premier siècle de notre ère, où l'on voit donc un cabaretier, justement, qui a posé une lanterne,
bien avant Astérix,
qui a posé une lanterne dans la rue, pour sans doute indiquer l'entrée de son cabaret. Un passant, sans doute un petit peu éméché, prend la lanterne, et donc le cabaretier le poursuit, ils se battent, donc c'est ce qu'on appelle une rixe, le cabaretier lui crève l'œil. Donc c'est avec un fouet, apparemment.
Bon. C'est violent, déjà.
Oui, c'est relativement violent, effectivement. Et bon, c'est le genre d'exemple donc tout à fait concret, tout à fait réel, puisque évidemment le juriste est interrogé sur les dédommagements que le cabaretier doit vis-à-vis d'un individu qui lui avait volé préalablement cette lanterne.
Mais les juristes font souvent surgir le quotidien de la vie plus que les historiens qui se tiennent à un niveau plus élevé du côté des élites.
Oui, donc dans les sources juridiques, on a évidemment des éléments assez abstraits de définition, mais également des anecdotes qui leur servent de cas d'école.
La violence conjugale, par exemple. C'est une forme de violence qui parfois sort dans la rue.
Je ne vois pas beaucoup d'exemples, en fait, de mari poursuivant son épouse adultère, hein, par exemple, dans les rues de Rome.
Maître esclave aussi, il y a des
oui, alors là, oui. Là, effectivement, donc la violence domestique, vis-à-vis notamment des esclaves, est réelle. Elle est autorisée, c'est-à-dire que, dans une certaine mesure, elle ne choque pas les Romains, puisque les esclaves sont considérés comme des ennemis de l'intérieur, des ennemis domestiques qui sont dans la maison, sur lesquels il faut évidemment avoir une autorité ferme, d'où le recours à certaines formes de violence. Néanmoins, les autorités, les empereurs, interdisent toute cruauté, toute violence, disons, déplacée, inutile.
On n'a pas le droit de vie et de mort quand on est le maître sur son esclave.
On a le droit de vie et de mort sur un esclave. Néanmoins, les mentalités évoluent. On reste dans certaines limites. Hein. C'est-à-dire que, sous la République, effectivement, un maître peut condamner à mort un esclave. Sous l'Empire, c'est moins fréquent et on préfère recourir à des sanctions différentes que la mort. Bon, là encore, une anecdote bien connue, qui est celle d'Auguste, donc le premier empereur romain, assistant à un banquet chez son ami Vedius Pollion. Un esclave casse une coupe de très grande valeur. Et Vedius Pollion veut faire jeter cet esclave aux murènes, hein, donc des poissons sympathiques, hein, qui mangent la chair humaine. Bon, et Auguste s'oppose à cette sanction, qui était de droit pour le maître, mais qui est considérée comme trop cruelle, comme déplacée. Et Auguste, n'arrivant pas à décider son ami, lui demande de faire venir tous ses objets précieux et fait casser devant lui ses objets. Et ainsi, l'esclave voit sa vie épargnée.
Je voudrais que nous en venions maintenant à un cas qui est bien connu, pas seulement chez les amateurs de péplum, mais notamment chez eux, c'est le cas des chrétiens. Parce que les chrétiens ont toujours posé un problème particulier, dès lors qu'ils ont commencé d'exister, de rayonner, d'influencer aux autorités, notamment aux empereurs. Et je vous parlais de péplum, alors écoutons, ça vous surprendra pas, puisque j'ai peu d'archives qui datent vraiment de l'Antiquité directement. Écoutons Bénure, dans sa version de 1959, celle de William Wyler. Charlton Heston qui joue Bénure, mais il n'est pas dans cet extrait que vous allez entendre. C'est le moment où le nouveau prétorien romain arrive dans cette terre et parle à son prédécesseur.
Drusus, quand j'étais enfant, je rêvais de commander cette garnison. Les dieux m'ont été favorables. Et c'est moi qui la commande.
Garde à vous !
J'avais oublié la chaleur.
S'il n'y avait que la chaleur.
J'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 14 ans. Jérusalem m'a vu naître. Mon père commandait
la
Judée.
Oui, je sais. Son souvenir demeure dans chaque mémoire. Un grand procurateur. Pour autant que l'on puisse gouverner dans ce pays abandonné.
Si l'on veut la gloire, Sextus, il faut la payer. J'ai demandé à être envoyé ici.
Tout a bien changé depuis ton enfance. Les gens sont différents.
Comment différents ?
Oh, les impôts leur sont odieux, et ils ont un sourd ressentiment contre Rome.
Tout cela n'a rien de nouveau.
Et puis, il y a leur religion. Ce sont des gens ivres de religion. Ils ont brisé les statues de nos dieux, et même celles de l'empereur.
Qu'on les punisse.
Bien sûr. Chaque fois qu'on peut les trouver.
Arrête les meneurs.
Ah, ça n'est pas si facile. Nous n'avons jamais la moindre preuve contre eux. Ce pays est travaillé par je ne sais quelles forces étranges. Par exemple, il y a cette histoire de Messie.
Oui, je sais, on en parlait déjà lorsque j'étais enfant.
Un roi des Juifs, il doit les délivrer et les emmener dans un paradis où il n'y aura pas de Romains. Ça me donne le vertige. Et dans le désert, il y a une sorte d'illuminé qui s'appelle Jean. Il plonge ses fidèles dans l'eau. Il y a également le fils d'un charpentier qui fait des tours de magie. Ils appellent ça des miracles.
Oh, il y a toujours eu en Judée des beaux parleurs pour soulever la populace.
Non, non, non. Cet homme-là est différent. Il enseigne que Dieu est présent en chacun de nous. À la vérité, ce qu'il raconte n'est pas si bête.
Tu es resté trop longtemps éloigné de Rome. Repars, Sextus. Va, Capri, repose-toi, contemple le ciel et oublie ce Dieu qui est en chacun de nous. Il n'y a de divinité qu'en un seul homme.
Oui, je sais.
L'empereur est très mécontent. Il veut faire de la Judée une province plus obéissante et plus disciplinée. Le nouveau procurateur et moi devons rétablir l'ordre et j'ai l'intention d'obéir à l'empereur.
Oui, mais comment, Messala? On peut s'attaquer à un homme, on peut l'arrêter et le faire jeter au fond d'un cachot. Mais comment peut-on lutter contre une idée? Est-ce qu'on poignarde une idée? En particulier une idée nouvelle?
C'était donc, Hélène Ménard, la version 1959 de Bénur, après celles qui étaient muettes et qui sont restées notoires de 1907 et 1925. Alors, ça se passe en Judée, c'est-à-dire déjà assez loin du centre, assez loin de Rome, mais le problème des chrétiens, il s'est posé partout.
Oui, bien sûr, la religion chrétienne part effectivement du foyer oriental, mais se diffuse assez rapidement, tout d'abord dans la partie orientale du bassin méditerranéen, puis ensuite à Rome et le long des grands axes de communication, notamment la vallée du Rhône. Donc l'intérêt de cet extrait, c'est de montrer le caractère totalement nouveau de la religion chrétienne pour les Romains.
Déroutant.
Ils ne comprennent déjà pas très très bien le monothéisme des Juifs et ils distinguent difficilement au départ le judaïsme du christianisme. Donc pour eux, le christianisme n'est pas une religion qui a droit de cité, qui n'est pas reconnue, qui correspond à une superstition.
Donc du point de vue du maintien de l'ordre,
donc les chrétiens représentent en eux-mêmes un élément de désordre. Ils sont considérés comme les ennemis du genre humain, c'est l'expression de Tacite, parce qu'ils commettent des crimes. Les Romains considèrent que les chrétiens, les différentes communautés chrétiennes se livrent à l'inceste, à l'infanticide, à l'anthropophagie. Et également, ils provoquent un trouble à l'ordre.
C'est pas vrai, en fait.
Non. Non, ce n'est pas vrai. C'est une mauvaise compréhension de rituel, bien sûr. Le baiser de paix pour l'inceste, l'eucharistie pour l'anthropophagie. Les chrétiens représentent, donc outre ces crimes faux, évidemment, dont on les accuse, représentent un trouble parce qu'ils ne se mêlent pas au reste de la population. Ils ont un mode de vie différent et ils ne reconnaissent pas les dieux de Rome. Et donc, en cela, il provoque forcément le désordre, il provoque les malheurs. Encore au 5e siècle, au début du 5e siècle, Augustin rapporte que dans les campagnes africaines...
Saint Augustin, l'évêque d'Hippone,
rapporte que dans les campagnes africaines, on dit toujours, il n'a pas plu, c'est la faute des chrétiens. Voilà, donc c'est un désordre vraiment tout à fait général que provoquent les chrétiens.
Alors comment est-ce qu'on l'affronte du côté des pouvoirs publics?
D'où des procédures, effectivement, pour contenir ce désordre chrétien, à travers tout d'abord des procès individuels, qui ont pour objectif de limiter les violences populaires vis-à-vis des chrétiens, c'est-à-dire que les autorités préfèrent éviter les émeutes contre les chrétiens, et donc ils signalent à la population qu'il est préférable de les dénoncer auprès des autorités, ce qui est une procédure normale.
Ça joue un rôle d'exutoire par rapport à... au risque de lynchage ou d'émeutes contre...
Bon, ceci étant, les mouvements de foule ne sont quand même pas si fréquents contre les chrétiens. Ces mouvements de foule arrivent essentiellement en période de crise. Par exemple, à Lyon, sous Marc Aurèle.
Qu'est-ce qui se passe?
Alors, ce qui se passe, c'est une crise un petit peu générale, dont on a du mal à déterminer d'ailleurs l'origine exacte. Est-ce qu'il s'agit d'une confrontation entre les chrétiens et des adeptes de Cybèle au moment de fêtes? Est-ce qu'il s'agit d'une crise économique latente qui fait que l'on a besoin de trouver, comme vous venez de le dire, des boucs émissaires? On discute entre historiens sur les causes exactes de cette émeute.
Quand vous avez fini de discuter sur les causes, qu'est-ce qu'on dit de concert sur les conséquences?
En fait, on a commencé par séparer les chrétiens, demander aux chrétiens de ne plus apparaître en public, Donc un phénomène de ségrégation, si vous voulez. Puis dans un deuxième temps, on s'est lancé dans une chasse aux chrétiens qui n'a pas provoqué de mort directement, mais qui a entraîné la cohorte urbaine de Lyon à intervenir pour rétablir l'ordre dans les rues. On n'a pas eu de lynchage à proprement parler, mais on était à la limite du lynchage. On aurait pu avoir des morts parmi les chrétiens si la cohorte urbaine n'était pas intervenue pour rétablir l'ordre.
Luc Dunham était en plein désordre, en somme.
Voilà. Lyon était effectivement en pleine effervescence, en plein désordre. Et en fait, les chrétiens sont emprisonnés et jugé par le gouverneur, qui est condamné à mort.
Évidemment, le comportement des empereurs a beaucoup dépendu de leur propre relation avec le christianisme. Hostilité, tolérance et finalement pour plusieurs conversions.
Oui, les empereurs donnent l'orientation évidemment de la politique vis-à-vis des chrétiens. La plupart des empereurs, y compris Marc Aurèle, empereur philosophe, sont tout à fait défavorables aux chrétiens. Donc, ils mettent en place, à partir du milieu du IIIe siècle de notre ère, des persécutions. C'est-à-dire que l'on n'attend plus que les citoyens romains dénoncent les chrétiens, mais on va rechercher les chrétiens. En tout cas, on va leur demander de sacrifier aux dieux romains, et ainsi, on les démasque, en quelque sorte, puisqu'ils ne peuvent pas sacrifier aux dieux. Et donc, on réprime de façon quasiment systématique l'appartenance à la religion chrétienne. Et dans un second temps, face à l'échec de ces persécutions, les empereurs, notamment Galère, en 311, sont plus tolérants, considèrent qu'il faut accepter la religion chrétienne, reconnaître la religion chrétienne. En 311, on est à la veille de la conversion du premier empereur chrétien, c'est-à-dire Constantin.
Mais qui a eu cette révélation au milieu d'une bataille.
Oui.
Non, c'est pas vrai. C'est ce qu'on a appris dans les manuels.
Voilà, c'est ce que l'on apprend dans les manuels. La réalité est sans doute un peu différente, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une construction historiographique par Eusèbe de Césarée en particulier, qui fait de la bataille du pont Milvius en 312, donc aux portes de Rome, la bataille qui déclenche la conversion de Constantin. Bon, mais cette conversion est sans doute beaucoup plus progressive.
Bon, ça nous entraînerait un peu loin.
Oui, voilà.
Quoi qu'il en soit, dès lors que le christianisme est adopté par des empereurs, on va voir assez vite des prélats, des évêques devenir à leur tour, c'est curieux, des serviteurs de l'ordre. Par exemple, Augustin, Saint Augustin, nous évoquions tout à l'heure, l'évêque d'Hippone ou Ambroise de Milan.
Les évêques, effectivement, deviennent des autorités dans leur cité. Ils sont tenus pour responsables du bon ordre des communautés chrétiennes par les autorités politiques, gouverneurs, empereurs.
Et donc, il y a une sorte d'alliance, ce que les anticléricaux du XIXe siècle auraient appelé l'alliance du sabre et du goupillon.
En quelque sorte. Néanmoins, ces évêques, surtout Ambroise de Milan, ces évêques n'hésitent pas à susciter eux-mêmes du désordre lorsque leur intérêt, en tant que chef de communauté chrétienne, catholique en l'occurrence, est menacé. Effectivement, Ambroise, en particulier, Augustin, beaucoup moins, mais Ambroise en particulier, n'hésite pas à entrer dans des rapports de force avec l'empereur, qui lui n'est pas catholique mais arien, et donc il suscite ce qu'on appelle notamment le conflit des basiliques, c'est-à-dire l'occupation de certains lieux religieux, de basiliques à Milan.
Par des fidèles.
Par des fidèles.
Manipulés par lui.
Et donc, il a un statut un petit peu ambigu. On voit partout
dans cette conversation, Hélène Ménard, on voit partout la foule, non pas tellement la foule en elle-même, que l'idée que les élites se font de la foule. Je voudrais que nous arrêtions un instant là-dessus, que vous disiez comment les choses se passent. Il y a cette citation d'Hérodien au IIIe siècle, à propos de la mort annoncée de façon erronée de Maximin. Hérodien écrit « Dans l'ensemble, les foules sont légères et elles sont portées au changement politique, mais la population de Rome, qui est fort abondante, bigarrée et composée de gens de toutes origines, est plus aisément que d'autres encline à la mobilité d'esprit. » La tourbe vue par les élites, c'est toujours la foule, c'est une masse difficile à saisir. Bref, le peuple ne doit avoir aucune autorité en aucune manière. Il ne doit pas être autorisé, par exemple, à réunir une assemblée.
La foule, effectivement, est présentée par nos auteurs antiques, donc qui appartiennent par définition à l'aristocratie, aux élites, comme mélangées. Donc c'est déjà un premier élément difficile hein, pour les Romains.
Composite, c'est pas bien.
Oui, composite, mélangé, qui n'a pas vraiment d'unité. Également, cette foule n'a pas de raison propre. Hein, c'est-à-dire qu'elle ne réagit pas avec sa raison, mais avec ses sentiments.
La brutalité des retournements, on ne peut pas contrôler tout ça.
Donc elle est, voilà, elle est
imprévisible, dangereuse.
Elle est versatile, elle change d'opinion assez rapidement. Elle suit un meneur en général, donc il suffit éventuellement de faire appel justement à ses sentiments, à sa pitié, ou au contraire à sa colère, hein, pour retourner une situation assez assez facilement.
Avec des comparaisons climatologiques éventuellement, le calme, la bonasse, puis tout à coup l'ouragan,
oui.
Et on retourne à un moment plus calme.
Des comparaisons également avec de la foule, avec la femme. Ou le barbare.
Avec la femme ou le barbare, expliquez ça.
Ben justement, ce ne sont pas des êtres raisonnables, mais ce sont des êtres qui font appel à leurs sentiments, voire leur sentimentalité, à leur aspect passionné, hein, et non pas raisonnable.
D'où le danger des meneurs. Alors, aussi.
D'où le danger des meneurs, hein, puisque ces meneurs peuvent faire appel à la violence, à la cruauté, à des sentiments exacerbés.
Donc beaucoup de stéréotypes à la fois sociaux et comportementaux qui renvoient plus à notre 19e siècle en France, à certains regards par exemple sur les émotions révolutionnaires qu'à notre époque contemporaine, celle du suffrage universel.
Oui, exactement. Maintenant nous parlons de la foule, nous ne parlons pas tout à fait du peuple. Le peuple, pour un Romain, c'est en fait le corps civique.
Organisé dans ses coulisses.
Voilà, organisé dans certaines structures. Mais effectivement, on a des comparaisons tout à fait intéressantes entre la façon dont la foule est présentée par les auteurs antiques et par exemple par Montaigne au XVIe siècle, hein, qui montre une foule donc assiégeant le gouverneur de Bordeaux dans une forteresse, et il utiliserait des termes que n'auraient pas renié les auteurs romains.
Donc il est d'ailleurs profondément imprégné, Montaigne.
Oui. Évidemment, hein, évidemment, il en est imprégné, donc cela s'explique tout à fait naturellement. Mais néanmoins, on a effectivement des clichés, des ce que nous appelons des topoi, hein, des lieux communs.
Parfois des pantosanes. Je voudrais en venir maintenant à, très concrètement, à la manière dont cet ordre est assuré. D'abord, les forces de police, qui sont toujours à la rencontre de l'armée, la police à proprement parler, les cohortes prétoriennes, urbaines, les vigiles. Nous allons ouvrir ce moment de notre échange, Hélène Ménard, en écoutant un extrait d'un texte de Monterland qui fait une glose sur Tacite, grand auteur de notre période. C'est une lecture due à Henri Roland, sociétaire de la Comédie-Française, vous le saluerez au passage, qui était faite en juin 1958. Un extrait de la fameuse émission de France Culture, Analyse spectrale de l'Occident.
Drusus était debout, demandant de la main le silence. Les soldats, chaque fois qu'ils considéraient leur nombre, éclataient en menaces effrayantes. Puis, reportant les yeux sur César, ils s'alarmaient. Un murmure vague, une clameur affreuse, et soudain le calme. Selon ses mouvements contrastés, il tremblait et faisait trembler. Que demandent au juste les légionnaires révoltés? En faire moins, être payés davantage. Les révoltes de légion sont les grèves de l'Empire romain. Tibère s'en tire par des défilades de style éternel, ils parleraient au Sénat de leurs demandes. Dans une situation renversée, les soldats arrêtent eux-mêmes les plus séditieux d'entre eux. Les légions, les pieds nus, entouraient le tribunal. Chaque prisonnier y montait successivement. Un tribun le montrait aux soldats. S'il le déclarait coupable, on le précipitait en bas, où il était massacré.
Ménard, c'était donc Monterland, regardant la Rome antique. Vous savez à quel point Monterland, qui détestait pas prendre la pause, aimait trouver des inspirations dans cette période de l'Empire. Il faut que nous l'expliquiez, au fond, un peu ce passage.
Donc, il s'agit d'un épisode qui met en scène Drusus, hein, le frère de Tibère, et qui est confronté, en fait...
À quelle période, à quel moment ?
En 14 de notre ère, donc après la mort d'Auguste, et Tibère, en fait, a du mal à s'installer au pouvoir, à être reconnu notamment par les légions. Ces légions qui manifestent, qui espèrent obtenir des avantages. Et Drusus doit rétablir l'ordre face à une mutinerie. Et on touche là du doigt le statut ambigu, finalement, des soldats dans la Rome antique, qui sont à la fois des forces de l'ordre, plus que des forces de police, parce que la notion de police spécialisée dans la répression de la criminalité, le maintien de l'ordre, n'est pas tout à fait adaptée. Donc ces soldats, ces légionnaires représentent également des forces de désordre, notamment lors de la succession impériale et de l'avènement d'un nouvel empereur. Ce n'est pas évidemment systématique, hein. Les légionnaires ou les prétoriens interviennent relativement fréquemment lors de successions difficiles, lorsqu'il y a un doute sur le successeur de l'empereur.
Depuis que César a franchi le Rubicon, c'est-à-dire violé la vieille règle, comme quoi on n'avait pas le droit de venir avec ses troupes jusque dans l'Urps, à Rome.
Depuis César et surtout Auguste, hein, depuis Auguste, depuis l'instauration du Principat, on a effectivement des forces armées à l'intérieur même de Rome. Donc ces forces sont les cohortes prétoriennes, qui sont peut-être les plus connues, mais également les cohortes urbaines, qui ont pour fonction d'assurer la sécurité, la police diurne, hein, donc dans la journée des citoyens romains, et également donc les vigiles, les cohortes de vigiles, qui ont un statut inférieur, hein, au sein de la garnison de Rome, qui sont constituées d'affranchis, donc d'anciens esclaves, mais qui ont pour fonction d'assurer l'ordre la nuit, nocturne, donc l'ordre nocturne, et également de lutter contre les incendies.
C'est curieux qu'au fond, aujourd'hui encore, les vigiles sont considérés comme, dans la hiérarchie, comme inférieurs
comme
aux policiers.
Oui,
une curieuse permanente. Venons-en maintenant aux lieux principaux. Peut-être revenir au cabaret que où nous emmenait tout à l'heure la fiction d'Astérix, le cabaret Les Popinae. C'était un lieu qui est très très surveillé par la police.
Oui, donc effectivement les cabarets sont surveillés parce que l'on craint toujours qu'ils servent de lieu de rassemblement pour des séditieux, donc des gens qui comploteraient contre l'empereur. Donc vous avez des soldats qui sont en civil en fait, qui se mêlent aux gens et qui écoutent les discussions, voire qui jouent le rôle d'agents provocateurs.
Ah oui, il y a déjà des provocateurs, oui.
Oui, alors ça n'est pas là encore systématique, mais on a quelques texte. Hein,
oui, on a un texte du philosophe que vous citez, du philosophe stoïcien Épictète, qui dit « C'est ainsi qu'à Rome, les soldats attrapent les étourdis. Un soldat s'est assis près de toi en costume civil et il commence à parler mal de César, toi à ton tour. Comme si tu avais reçu un gage de sa bonne foi par le fait qu'il a pris l'initiative d'un langage injurieux, tu te mets également à dire ce que tu penses, tout ce que tu penses. Et alors on t'enchaîne, on te conduit en prison. »
Oui, donc il s'agit là évidemment de menées qui ne sont pas du tout courantes en fait. Hein.
Ah bon, c'est
non, c'est plutôt sous les mauvais empereurs, ce qu'on appelle les mauvais empereurs, hein, que l'on a ce genre d'agents provocateurs.
Ce Domitien par exemple.
Voilà, donc Domitien.
Les oreilles, comme on dirait aujourd'hui.
Oui. Domitien qui n'est pas vraiment un exemple de bon empereur.
À la fin du deuxième siècle.
Voilà, donc ce sont quand même des cas un petit peu particulier. Mais donc, dans les cabarets, hein, on essaie d'avoir un minimum de contrôle, de surveillance, mais ce ne sont pas les seuls lieux qui sont surveillés, qui essaient d'être contrôlés par les autorités.
Et les lieux de spectacle, le théâtre.
Vous avez bien sûr, alors principalement, essentiellement, les lieux de spectacle.
Et le cirque, parce qu'il y a des milliers, combien est-ce qu'il y a de gens au cirque?
On évalue à 250 000 le nombre de spectateurs.
Pour une ville qui a à peu près un million d'habitants, semble-t-il.
Qui a, voilà, aux alentours d'un million, entre 800 000 et 1 200 000.
Donc un quart de la population rassemblée, évidemment, ça crée des problèmes qui sont équivalents à ceux, même bien supérieurs à ceux que nous connaissons autour de nos stades.
Bien sûr, c'était une formidable caisse de résonance. Hein. Le Grand Cirque devait représenter une épreuve redoutable pour l'empereur, hein, lorsqu'il n'était pas très populaire, parce que vous imaginez bien que 250 000 personnes qui conspuent l'empereur, cela devait être terrible. Imaginez que l'amphithéâtre Flavien, le Colisée, contient entre 50 000 et 80 000 personnes, c'est-à-dire au maximum le Stade de France. Le Circus Maximus, le Grand Cirque, c'est 250 000 personnes, donc c'est énorme.
Par exemple, il y a le cas des jeux séculaires de 204 après Jésus-Christ, qui non seulement poussent les Romains dans les lieux spectacles, mais attirent une foule considérable, comme aujourd'hui les Jeux Olympiques, c'est sous Septime Sévère. Et on voit alors toute la liste des précautions prises par les autorités pour empêcher les désordres.
Notamment le fait que les citoyens romains, dans leur quartier, doivent patrouiller conjointement aux vigiles pour assurer la tranquillité publique, afin évidemment que les désordres ne se multiplient pas. Hein, justement, ces fameuses rixes dont nous parlions au début, ou bien toutes les déprédations qu'on peut imaginer, les vols, destructions de biens par des gens un petit peu éméchés et surexcités.
Donc on demande aux citoyens eux-mêmes de se mêler de l'ordre à côté des troupes.
Hein. Oui, bien sûr. Les troupes ne constituent finalement pas l'élément essentiel du maintien de l'ordre. Elles sont importantes parce qu'elles ont un effet dissuasif. Il est évident que on est moins amené à troubler l'ordre lorsque l'on a des prétoriens ou des urbains, donc des soldats à proximité.
Ça, on retrouve le 19e siècle, au fond, les gardes nationales, etc.
Voilà. Mais au quotidien, c'est quand même aux citoyens d'assurer la tranquillité dans sa rue, dans son quartier. On sait notamment que lorsque la foule émeutière s'en prend à des bâtiments privés ou publics, mais par exemple les maisons des préfets de la ville, eh bien les voisins interviennent pour défendre la maison du préfet attaqué.
On voit aussi une grande inquiétude en face des associations. Il y a une loi d'Auguste qui est très restrictive pour la liberté d'association. On est loin de notre loi de 1901.
Oui, les associations sont sous surveillance.
On s'en méfie.
On s'en méfie.
Se regroupe.
C'est à la fois un élément, une institution tout à fait importante et vitale qui structure la société romaine. Mais en même temps, cette structure, ces collèges, ces associations donnent la possibilité à la population de se réunir régulièrement, donc de comploter, et également par des cotisations, de réunir des sommes d'argent qui peuvent éventuellement servir, là encore, à préparer une révolte.
On se méfie des banquets, comme à la fin de la monarchie de Juillet. Vous citez un texte de Pline le Jeune quand il est gouverneur de la province orientale de Bithynie au début du IIe siècle et qui demande à l'empereur des instructions, est-ce que je dois laisser, à l'occasion des fêtes, se développer ou non les banquets. Et puis il y a le risque de l'incendie. Et là, évidemment, on pense tout de suite à Néron, et quand on pense à Néron, on pense à Covadis.
Rassemblez tous les détachements disponibles.
Il crie quelque chose. Que sont-ils en train de crier?
Ils t'ont gratifié d'un nouveau titre, divinité. Incendiaire.
J'ai fait demander des renforts, j'espère qu'ils arriveront à temps. À ta place, je parlerai au peuple, César. Pourquoi ne pas lui faire des promesses?
Je ne recherche pas les faveurs, c'est moi qui les confère. Va leur parler en mon nom.
J'attendrai que les renforts arrivent, je ferai parler le père. À présent, il me lapiderait.
Est-il plus noble cause pour laquelle mourir?
Ce fut ton rêve d'architecte. Cours le leur dire, Faon, c'était pour leur bien.
Nous ne pouvons pas leur connaître, divinité.
Tu as raison, il ne faudra jamais leur connaître. Comment ces misérables partageraient-ils ma vision? Sénèque, qu'est-ce que tu me conseilles?
Le peuple est une bête sauvage, et avec un animal, on ne peut pas raisonner.
Je suis plus entouré que par des eunuques. Pourquoi te tiens-tu à l'écart? Tu es mon conseiller. Pourquoi restes-tu muet?
Laisse-les passer. Nous mourrons tous ici. Tous excepté toi. Toi, bien entendu, puisque tu es Dieu, tu es immortel.
Ce ton badin n'est guère de mise, Petron. Ils te tueront aussi, toi.
Si tu redoutes de mourir, moi, ça m'est égal. J'ai aimé Rome. Et je n'ai pas le désir de lui survivre.
Petron, toi, tu es différent de mes familiers. Ces gens croient que tu es leur ami. Parle à cette foule. Va lui promettre du blé, de l'huile, du vin.
La foule saura bien les prendre sans ta permission.
Insatiable et ingrat, quel peuple! Qu'est-ce qu'il demande?
La justice.
Le peuple n'entend pas de justice, il veut une vengeance!
C'était notre second péplum ce matin, c'était donc Covadis, un film de Mervyn LeRoy, où vous rappelez que c'était Peter Ustinov qui incarnait Néron. Et Robert Taylor, jeune général Marcus Vinicus, sa version anglaise est restée fameuse quand il entre et qu'il dit « Hi, I'm Marcus Vinicus ». Mais ce n'est pas pour ça que Hélène Ménard, que je vous donne cet extrait, c'est parce que, bien sûr, on y voit, me semble-t-il, rassembler plusieurs des éléments que nous avons évoqués ce matin. Et nous pouvons peut-être nous en servir pour conclure.
Oui, nous avons effectivement tous les éléments déjà évoqués. Donc nous avons l'empereur. L'empereur qui est l'autorité suprême, qui est confronté ici à une révolte, à une émeute, qui met en danger son pouvoir.
La foule est un animal sauvage, on trouve cette idée. On ne peut pas.
Oui, tout à fait. Hein. Et l'empereur, ici Néron, a bien du mal à savoir quel comportement adopter, en quelque sorte la fuite ou au contraire la répression.
On peut lancer des têtes aussi de collaborateurs à la foule. C'est ce qu'évoque d'ailleurs cet extrait.
Oui, nous avons des exemples d'empereurs qui, effectivement, préfèrent sacrifier leurs favoris, par exemple Cléandre sous Commode, plutôt que de laisser la situation dégénérer et de risquer leur pouvoir.
Cet extrait, finalement, ne vous choque pas comme effroyablement anachronique ?
Non, il n'est pas trop anachronique. On ne trouve pas forcément l'ordre là où on le pense, et on ne trouve pas forcément le désordre où on l'attendrait. C'est-à-dire qu'on a un jeu subtil entre les autorités qui sont elles-mêmes génératrices de désordre.
Surtout quand l'empereur met le feu lui-même à sa ville.
Surtout quand l'empereur met le feu lui-même à sa ville, ce qui historiquement est faux.
Quand même, vous ratifiez pas l'idée que Néron a mis le feu.
Non, Néron n'est pas l'incendiaire qui est parfois décrit dans les sources antiques. Hein. Il y a des impossibilités matérielles, et puis cela correspond à la vision du tyran, hein, qui justement, par l'incendie, propage le désordre.
Qui est l'homme du désordre alors qu'il devrait être l'homme de l'ordre.
Voilà, qui est l'homme du désordre alors qu'il devrait normalement être intrinsèquement l'homme de l'ordre.
En fait, rien de tel. Vous pouvez nous affirmer de façon scientifique que Néron n'a pas mis le feu à Rome, c'est ça?
Oui, c'est la tendance actuelle, en tout cas, chez les antiquisants, hein, de revenir sur cette image d'incendiaire de Néron. Ce qui est sûr, c'est qu'il profite quand même de cet incendie. Il faut bien voir que les incendies à Rome sont relativement fréquents, qu'il est relativement facile de déclencher, volontairement ou non, un incendie.
Et là, c'est en considérant ces flammes, Hélène Ménard, que nous allons nous séparer. Je rappelle le titre de votre livre, Maintenir l'ordre à Rome, publié chez Champvallon l'année dernière, en 2004, dans la collection dirigée par Joël Cornette. Les internautes peuvent réécouter cette émission pendant une semaine sur le site de France Culture.